Dan Mag, T comme Titane.
Dan comme Daniel.
Le magazine de Titane.
Et Dan.
Le Titan Mag, avec la complicité de l'ami éclairé
Dominique,
avec nous au micro, et de l'ami fidèle
Laurent,
à la technique, vous invite à participer à ces rencontres humaines, ces inspirations de l'instant et son désir imminent.
Bonjour Titan, bonjour Daniel.
Bonjour Dom.
Bonjour Laurent.
Bonjour.
Nous recevons aujourd'hui un historien convaincu de l'importance de la recherche historique pour mieux comprendre les mentalités d'aujourd'hui. Un historien passionné par l'histoire locale, histoire de la ville dans laquelle il a décidé de se fixer, mais aussi histoire d'une industrie qui a profondément marqué la mémoire d'une cité où subsistent encore de nombreuses traces d'un passé souvent prestigieux. Un historien qui s'est intéressé à l'industrie de la soie, mais qui ne s'est pas contenté de cette approche. Il a voulu en savoir plus sur la vie de celles qui ont contribué au prestige de ces soyeux qui ont fait, au-delà de Lyon, la renommée du Nord-Isère. Avec lui, nous allons parler d'archéologie, bien sûr. Nous l'interrogerons sur quelques points de l'histoire de Bourgoin-Jallieu. Il nous rappellera les grandes heures d'une industrie qui a connu dans la région un développement florissant. Nous évoquerons également ses institutions, les usines pensionnats, sans lesquelles peut-être une telle industrie n'aurait pas pu se développer comme elle l'a fait. Bonjour Daniel Herrero.
Bonjour Dominique.
Vous êtes parisien, installé à Bourgoin-Jallieu depuis 1976. Vous réussissez l'agrégation d'histoire en 1970. Présentez votre thèse en 1973 sur la Colombie et le développement de Medellín. Vous avez enseigné l'histoire au lycée Loiselet à Bourgoin-Jallieu. Vous avez été formateur à l'UIFM de Grenoble et à l'université. Et vous avez dirigé pendant 10 ans la formation des professeurs d'histoire-géographie de l'Académie de Grenoble. Vous êtes de 1990 jusqu'à la fin de votre carrière, inspecteur pédagogique régional, inspecteur d'académie. Vous êtes chevalier et commandeur de l'Ordre des Palmes académiques. Vous avez publié en 1988 un livre sur la Révolution française en Isère, puis une histoire des communes du canton de Bourgoin-Jallieu. Et vous êtes l'auteur du seul livre sur les usines pensionnats malheureusement épuisées. Alors, pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous rappeler en 2 mots l'importance de l'Isère dans la chronologie des événements qui conduisent à la Révolution française ?
Alors, l'Isère est un pays rural. Situons-nous juste après le 14 juillet 1789. La nouvelle de la prise de la Bastille arrive à Bourgoin 7 jours plus tard, donc le 21 juillet. Dans les campagnes, la rumeur, le bruit, il y a un bruit qui court. Des brigands envoyés par les nobles vont se venger et vont tout saccager. Ils vont saccager les terres, ils vont détruire les récoltes. Les paysans pensent que c'est la réalité. Ils s'arment de faux et ils se dirigent, se rassemblent à Bourgoin-Jallieu le 28 juillet. À cette époque, il y a environ 1500 habitants à Bourgoin. Ils sont 6000 à venir à Bourgoin-Jallieu. 6000. 6000 qui s'installent dans la rue. Le maire, qui s'appelle Roy, ordonne de faire du pain. Il faut les nourrir. En plus, il pleut. Il y a des orages. Les gens sont sous les halles. Des brigands ? Point de brigands. Les brigands ne viennent pas. Alors, que décide-t-on de faire ? On est là, rassemblés, tous unis. Eh bien, on se dirige vers les châteaux. Vers les châteaux, très nombreux dans la région, où se trouvent les nobles qui font peser sur les paysans des droits très lourds. Il faut voir qu'ici, les droits seigneuriaux étaient de plus de 33%. Ça veut dire qu'ils vous prenaient plus d'un tiers de votre récolte. Et c'est là qu'a lieu, donc, un mouvement paysan, mais énorme, qui embrase la France et dont Bourgoin a été un des épicentres. Car ce n'est pas simplement à Bourgoin qu'il y a eu ces mouvements-là, mais Bourgoin a été un des épicentres et qui a amené la conclusion de tout cela, ça a été l'abolition des droits seigneuriaux lors de la nuit du 4 août 1789 et l'abolition de tous les privilèges. D'où l'importance de Bourgoin dans l'histoire de la Révolution française.
Et alors, il y a une chose un petit peu étonnante quand on commence à s'entretenir avec vous, c'est que vous nous dites que vous êtes passionné d'archéologie. Alors c'est intéressant de passer de cette Révolution française, ses prémices, et puis l'archéologie, comment...
Tout à fait, parce que quand je suis arrivé dans cette région, j'ai rencontré un homme qui n'était pas historien, qui était un chimiste, mais qui était un archéologue passionné, qui s'appelait Jean Chauffin, qui est malheureusement est décédé, et qui était le responsable du groupe archéologique de Bourgoin. Cet homme remarquable, érudit, m'a initié à l'archéologie et m'a fait comprendre comment notre paysage est né à l'époque gallo-romaine. Si vous voulez, la mise en valeur du territoire, elle s'est faite à cette époque-là. Autour de domaines qu'on appelle des villas, une villa gallo-romaine, il y a la villa, c'est la maison du maître, et il y a autour bergerie, remise, grange, maison pour les esclaves, et tout cela forme un territoire de 6 à 7 kilomètres de diamètre. Eh bien ça, ça a donné naissance à toutes les communes du Nord-Isère. Domarin, Ruffieux, Boussieux, Ruy, Villefontaine, l'île d'Abeau. Oui, toutes les communes sont nées à l'époque gallo-romaine, c'est-à-dire entre le 1er siècle après Jésus-Christ et le 3e siècle après Jésus-Christ. Donc, c'est ça qui est à l'origine de notre territoire, de la mise en valeur de ce territoire.
Est-ce qu'on a une idée des... Vous parlez des villas gallo-romaines, des populations qui...
Oui, alors c'est très intéressant. Il y avait des populations gauloises, c'est-à-dire des celtiques, qui étaient déjà installées, mais il y a eu beaucoup de... On les appelait des Romains, mais en fait qui venait de tout l'Empire romain. Par exemple, un certain Syrie, un Syrien, des Albanais, quoi, des Albanais d'aujourd'hui, hein, on dirait pas l'Albanie à l'époque, mais des populations qui sont venues d'Orient, qui se sont installées dans la région. Pourquoi ? Parce que c'était une région assez calme, où on pouvait être tranquille. Des esclaves ainsi s'affranchissaient, ils fuyaient, et puis ils arrivaient ici, ils s'installaient. Et on retrouve cela dans les noms. Le nom Syrie, par exemple, Syrie, qu'on va retrouver, eh bien, est un nom très fréquent dans le Nord-Isère.
Et ces noms, ils apparaissent où? Où est-ce qu'on en a découvert la trace? C'est ça qui est intéressant. Alors, et comment est-ce qu'on a pu dire ils sont Syriens, Albanais? Ça, vous venez de le dire, mais...
Où? Alors, comment le sait-on? Eh bien, c'est simple. Ils fabriquaient, d'une part, des poteries. Et les potiers, eh bien, ils marquaient leur nom, fabriqué par un tel. Deuxième possibilité, les tuiles. Les tuiles romaines, car on a besoin de beaucoup de tuiles pour fabriquer, pour construire toutes ces villes-là, eh bien, elles sont faites sur place. Et là aussi, il y a les noms. Et ainsi, on peut connaître à peu près entre 150 et 200 noms qui étaient utilisés à l'époque, et donc en voir l'origine, d'où ils venaient, parce que souvent, vous savez, c'est comme les prénoms, hein, celui-là, il s'appelle Dupont. Ah bah oui, il vient Dupont, hein, ou des marais, parce qu'on vit à côté des marais. Surtout qu'il faut voir que pendant très longtemps, le patronyme... eh bien, n'existait pas, c'était le nom de baptême. D'ailleurs, moi, mon nom, Herrero, qu'est-ce que c'est? C'est le forgeron en espagnol. Ferré en français, Schmidt en allemand, Smith en anglais. Et c'était la même chose à l'époque.
Si les gens s'installaient, c'est parce qu'il y avait la paix, mais également la terre était très bonne à cultiver.
Tout à fait. Surtout dans la vallée de la Bourbre. La vallée de la Bourbre était très riche, à l'opposé des terres froides qui étaient plus rudes. Et Mais déjà à l'époque gallo-romaine, on s'est attaqué aux marais. Par exemple, lorsqu'on vient de construire le Médipôle, ici, à Bourgoin, on l'a construit à l'emplacement des marais. En faisant les travaux, qu'est-ce qu'on a découvert ? Eh bien, qu'il y avait des canaux qui avaient été construits, que les terres avaient été mises en valeur, qu'on eût cultivé le blé et qu'il y avait même des moulins. Parce que pour, évidemment, faire de la farine, il faut des moulins. Et ça, ça veut dire que très tôt, les hommes ont mis en valeur des terres qu'ils jugeaient riches et ainsi pouvaient être prospères.
Alors, vous soulignez hein, l'importance pour l'historien de remonter dans le temps, parfois jusque relativement loin. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus, sur l'importance qu'il y a à bien percevoir le passé, peut-être pour mieux connaître le présent ? Est-ce que...
Ah, tout à fait. Dans l'histoire, il y a toujours un aller-retour entre le présent et le passé. On interroge l'histoire, en fait, ou on interroge le passé, en fonction du présent. Pourquoi s'est-on intéressé, après les années 60, à l'histoire des femmes ? Développement des mouvements féministes. Et on s'est intéressé à cette histoire des femmes qui avait été totalement ignorée par les historiens. D'où on interroge les documents en fonction des problèmes présents. Mais pourquoi ? Pour savoir aussi comment cela a évolué et d'où on vient. C'est ça, ce mouvement, cet aller-retour entre passé, présent, le passé qui donne des clés pour comprendre le présent et le présent qui permet d'interroger le passé à l'aune du présent. Donc, moi je suis arrivé à Bourgoin en 1976, je ne connaissais pas du tout. Si je connaissais le club de rugby, le CSBJ, c'est tout ce que je connaissais de Bourgoin. Je ne savais pas que c'était même un lieu où l'industrie textile était florissante et qui, même, surtout l'impression sur étoffe, la soierie, même un des lieux les plus importants de France. On parle de Lyon, mais on oublie que Bourgoin et sa région étaient, de ce point de vue-là, très très développés et très en avance. Eh bien, pour comprendre la région, et aussi c'est peut-être pour m'intégrer dans cette région, un peu, non pas austère, mais un peu fermée au départ, au premier abord, que j'ai senti qu'il fallait que j'en comprenne l'histoire. Et comprendre cette histoire, c'est aller chercher aussi bien dans les paysages, parce que les routes, vous savez les routes que vous empruntez, qui sont si nombreuses aujourd'hui, ben moi je les ai, je les retrouve à l'époque gallo-romaine, au 1er, au 2e et au 3e siècle, c'était les mêmes. Si les gallo-romains nous ont laissé quelque chose, ils ont laissé beaucoup de monuments, des poteries, etc., mais ils nous ont laissé des routes. Et ces routes, nous les empruntons tous les jours. Et moi je suis encore fasciné aujourd'hui, quand je me promène dans ces petits villages, trouver un petit chemin, et ben ce chemin il a été emprunté par des gallo-romains. Voilà. Et ça, c'est ça qui nous inscrit dans un territoire.
Alors, on en vient à Bourgoin. Oui. Apparemment, Bourgoin n'a pas toujours eu la physionomie que nous lui connaissons. Est-ce que vous pourriez nous donner une idée de l'évolution de la ville, des mutations de son espace, apparemment, qui en a connu beaucoup ?
Tout à fait. Alors, Bourgoin, c'est justement, à l'époque gallo-romaine, Bergusium. Bergusium. Ce qui signifie, et c'est très intéressant, porte des Alpes. Berg, la montagne, et on a repris le mot porte des Alpes. Et donc, qu'est-ce que c'est que Bourgoin ? Bourgoin, c'est quelque chose qui est... Oh, il y a 8 à 900 habitants au IIe siècle, au moment de la paix romaine. Ils sont localisés entre... Vous voyez la rue de la République, la rue de la Paix, la Folatière et le lycée Gambetta. Vous voyez ce petit carré ? Eh ben, c'est ça.
C'est pas énorme.
Ah non, c'est très petit. C'est très, très petit. Ça, c'est à l'époque gallo-romaine. Au Moyen-Âge, Bourgoin, c'est toujours cela. Il y a des fossés autour, mais l'espace est toujours le même. Et ça, jusqu'au XVIIIe siècle. Donc, on a vécu dans un espace très étroit, si vous voulez, genre île Saint-Louis à Paris, et on est resté dans cette île pendant des siècles et des siècles. Alors, à la fin du XVIIIe siècle, alors que la révolution industrielle apparaît en Angleterre et en France, eh bien Bourgoin va se développer. On va sortir des fossés, on va sortir des murailles, on va aller au-delà. Au-delà, c'est pas très très loin, mais on parlait du lycée Gambetta, où vous avez parlé tout à l'heure du lycée Loiselet, où j'ai enseigné pendant 30 ans. Ben, le lycée Loiselet, c'était la campagne. C'était la campagne, il y avait des fermes, on y allait acheter le lait avec son petit bidon en étain ou en aluminium. Eh bien, cette campagne, elle a été peuplée après la fin du XVIIIe siècle, au début du XIXe siècle. Et c'est là que les usines ont commencé par entourer Bourgoin. Les premiers qui sont venus, ce sont des protestants, des Suisses. Ce sont les Pérégots. Et qui, à la fin de la Révolution française, à la fin du XVIIIe siècle, ont installé une grande industrie textile cotonnière. Non pas de la soie, au départ, c'était du coton. Et donc là, on va voir se développer des industries textiles, coton, soie, et aussi métiers à tisser. Non seulement, bien sûr, il y a les filatures, il y a le tissage, mais il y a aussi les métiers à tisser. Avec les métiers à tisser, Diedrich, qui a été une des plus grandes entreprises du monde. Du monde.
On les retrouve partout.
Oui.
Couleur FM 97.1, avec comme invité Daniel Herrero. Nous venons d'entendre Errol Gardner dans It's Alright With Me de l'album Concert by the Sea.
Alors, ce développement d'industrie textile autour de Bourgoin, si je vous ai bien entendu, qui doit coïncider à peu près avec le début du 19e siècle, est-ce qu'il y a des raisons à ça ?
Tout à fait, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, Lyon est depuis François Ier la capitale mondiale de la soie. À Lyon, il y a une industrie de la soie, ce qu'on appelle les canuts. Les canuts, ce sont des ouvriers propriétaires. Ils sont propriétaires de leur métier à tisser. Les marchands, eux, leur apportent la soie et eux vont faire le tissu. Or, tout le problème est dans le tarif. C'est-à-dire que le tarif est négocié entre le marchand qui apporte la soie et le canut. Évidemment, ces tarifs étaient très très bas. D'où des luttes très importantes entre canuts et marchands de soie. Des luttes très importantes qui ont abouti à deux insurrections très phénoménales, celles de 1830 et 1834. Donc, vous avez Lyon, qui est une ville très peuplée, où les canuts sont considérés comme des classes dangereuses, et où le patronat décide de se tourner vers les campagnes, où déjà il y a une main-d'œuvre abondante, où il y a des rivières très abondantes, ce qui est nécessaire pour faire tourner les machines, parce que pour faire tourner les machines, on n'a pas encore de machine à vapeur, mais il y a un moyen beaucoup plus simple, c'est une turbine dans l'eau, et cette turbine actionne ensuite tous les métiers à tisser. Donc vous avez la main-d'œuvre qui est abondante, l'eau, vous avez aussi un savoir-faire ancien, puisque beaucoup de paysans qui étaient assez pauvres avaient un double métier. Les femmes, par exemple, tissaient chez elles pour un marchand qui leur apportait donc là aussi la soie et qui ensuite réalisait l'ouvrage en tissu. Donc toutes ces raisons-là font qu'il y a eu un déplacement de l'industrie, de la ville considérée comme dangereuse, comme révolutionnaire, vers les campagnes considérées comme dociles, surtout qu'elles étaient fortement christianisées depuis très très longtemps. Et on retrouvera ça dans les usines pensionnats.
Alors, on pourrait s'attarder très longtemps sur Bourgoin-Jallieu. Quelque chose qui me frappe, c'est que vous dites qu'on a actuellement, je ne sais pas comment dire, la preuve de ce qu'il y a eu à Bourgoin-Jallieu des monuments importants.
Alors, on a retrouvé en tout, à peu près, j'ai compté 450 000 tessons, poteries, tuiles. Mais surtout, on a trouvé du marbre rose, mais du marbre rose en grande quantité et de grande dimension. Ça voulait dire que cela appartenait à des monuments. Donc ça veut dire que Bourgoin était beaucoup plus important qu'on ne le croyait auparavant. Donc, il y avait à Bourgoin, c'était surtout des auberges. On y fabriquait des clous, de la métallurgie, petite métallurgie. On y fabriquait bien sûr des tuiles. Mais c'était une sorte de gîte d'étape. Hein, une sorte d'étape. Mais la présence de ce marbre rose fait que ça nous permet de dire qu'il y avait des bâtiments publics. Donc, Bourgoin, qui était sur la route entre Vienne et Aoste, avait un rôle important à cette époque.
Alors, on revient sur la première partie de votre entretien. Vous avez dit quelque chose qui me semble essentiel, à savoir que l'industrie du tissage de la soie à Bourgoin, elle a une particularité. Vous l'avez dit, mais j'aimerais que vous souligniez un petit peu cette... Elle se développe dans deux directions.
Oui, alors la particularité, c'est que justement, se sont développées des industries qu'on a appelées des usines pensionnats ou des usines couvents. Usines pensionnats, usines couvents, c'est quoi ? Eh bien, elles étaient dirigées par des sœurs. Dirigées par des sœurs, non pas au niveau du travail, mais au niveau de la surveillance et de l'éducation. C'est que les jeunes filles, car c'était des jeunes filles, qui en majorité étaient très jeunes, entre 14 et 20 ans, et qui dépendaient, étaient élevées comme par les sœurs dans un pensionnat qui pouvait accueillir jusqu'à 500 personnes. Et comme l'usine a compté au maximum en 1916 2200 ouvrières, voyez l'importance de ces pensionnats dans l'industrie textile. D'autant que ça a été une véritable étape, ça a été quelque chose de nouveau, nouveau en France. Ici, les usines pensionnats, dans le Nord-Isère, il y en avait une cinquantaine. Et ça a été donc un élément moteur de l'industrialisation. Donc, ces jeunes filles qui entraient entre, à l'âge de 12, 13, 14 ans, y restaient de 4 à 8 ans. Donc, ils y passaient une grande partie de leur vie. Elles n'étaient pas salariées. On leur donnait simplement, lorsqu'elles partaient, une dot. Une dot qui correspondait en gros à 600 francs. C'est ce que gagne une ouvrière du textile dans une usine, disons, ordinaire. 600 francs, elle gagnait ça en un an. Elle a gagné ça en 8 ans. 8 ans de travail.
Ces usines pensionnats n'étaient pas toujours ouvertes. C'est-à-dire, c'était saisonnier, dépendant de la soie qui était disponible.
Ah non, là, les usines pensionnats fonctionnaient toute l'année. Et quand on dit pensionnat ou couvent, c'était vraiment des couvents, c'est-à-dire que c'était des forteresses, véritables forteresses. De l'extérieur, vous ne pouviez rien voir. Il y avait des hauts murs, les bâtiments étaient très hauts, tous en pierre, et pratiquement, ils pouvaient vivre en autarcie. Il y avait des jardins, on y cultivait des légumes, on y faisait du miel. Il y avait, par exemple, chez Schwarzenbach, on y cultivait des plantes médicinales. Les sœurs avaient, à peu près 130 à 140 décoctions pour soigner les maladies. Donc, c'était quelque chose qui vous permettait de vivre en autarcie, comme dans un couvent.
Est-ce que vous pouvez nous parler des conditions de travail de cette époque-là, du nombre d'heures par semaine, par exemple ?
Alors, une jeune fille qui commençait à 14 ans en 1860, eh bien, elle travaillait 14 heures par jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Donc, 14 fois 6, ça vous fait plus de 80 heures. Et elle restait 4, 5, 6, 7, 8 années, mais sans pratiquement sortir. Parce qu'elle ne pouvait sortir de l'établissement qu'avec l'autorisation des sœurs. Donc, c'était quelque part du monachisme. C'était véritablement un couvent.
Et c'est parce que ces jeunes filles étaient de familles pauvres à qui on voulait donner malgré tout une bonne éducation, j'imagine.
Tout à fait. Ça, c'est la caractéristique de ce paternalisme, de ces patrons catholiques très pratiquants qui estimaient qu'ils avaient une mission. Cette mission, c'était de lutter contre la pauvreté, de lutter contre la misère, lutter contre l'alcoolisme. Et ils pensaient que les femmes étaient pour cela quelque chose de merveilleux, parce qu'elles allaient domestiquer leur mari, qui d'abord buvait un peu trop, si je puis dire, mais aussi qui était tenté par le syndicalisme, par le communisme. Donc, la femme apparaissait comme un moyen de remettre ces hommes dans le droit chemin. Et, effectivement, elle devait assister aux prières, elle recevait une éducation religieuse, elle devait se confesser obligatoirement, mais attention, elle ne pouvait aller se confesser qu'à quatre, hein. Jamais plus de quatre ensemble, parce qu'elle n'avait pas le droit de parler. Il était interdit de parler, aussi bien dans les ateliers, que dans les couloirs, que dans les dortoirs, que pendant les repas. Alors, cette interdiction de parler, vous voyez, même aux toilettes, elle ne pouvait aller aux toilettes qu'à deux, hein, deux ensemble. Oh, je pense qu'elle devait se glisser quelques mots, c'est pas possible de ne pas parler, de ne pas s'échanger des mots. Surtout que souvent, ces jeunes filles étaient là avec leur sœur, ou alors avec leur maman. La mère était là, et les deux ou trois filles travaillaient également dans l'usine. Donc, une fois sorties de l'usine, à 24, 25, 26 ans, eh bien, elles avaient cette dot et elles étaient considérées comme bonnes à marier. Car avec cette dot, elles pouvaient trouver un bon mari. Elles avaient une culture, elles savaient lire et écrire, et donc, c'était une sorte de promotion sociale. Dans une certaine mesure, on peut dire que le patronat avait atteint son objectif, à savoir en faire des bonnes mères de famille.
Straight ahead, the road keeps winding, narrow, wet, and dimly lit, vainly looking for a crossroad. Where a weary soul can sit, lost and needing some direction, dodging ruts along the way. Bumpy road, confuse a body, lead a trusting soul astray. For some the road is smooth and easy, traveling high with a care. But if you got to use a back road, straight ahead can lead nowhere. So on this road, you've got a problem getting where you want to go. Speed limit almost down to nothing. Straight ahead.
Couleur Cœur FM 97.1 avec notre invité Daniel Herrero. Voici maintenant Jeanne Lee et Mal Waldron dans Straight Ahead de l'album After Hours.
Alors Daniel, reparlons un peu de ces ouvrières qui travaillaient 14 heures par jour et je me pose la question de savoir comment et quand elles pouvaient étudier, apprendre à lire et à écrire.
C'est une très bonne question car on a du mal à imaginer aujourd'hui combien ces femmes et les hommes de l'époque étaient endurants, durs, courageux, qui supportaient des choses que nous ne pourrions pas supporter. N'oublions pas que quelques années après, il y aura malheureusement la guerre de 14 et on sait aujourd'hui que si les hommes ont pu survivre à un tel massacre, à une telle boucherie, c'est que ces hommes étaient mais trempés dans du métal. Il fallait une endurance qui est inimaginable pour nous. Ces jeunes filles, certaines des jeunes filles, repartaient le samedi soir et elles revenaient travailler le lundi. Elles partaient à pied et elles faisaient 6, 7, 8 kilomètres le soir pour rentrer. Et même chose le lundi pour venir. Ce n'était pas un problème pour elles.
Et d'où venaient-elles? Elles étaient recrutées comment et de quel pays peut-être venaient-elles?
Alors dans un premier temps, elles viennent de plusieurs départements. Savoie, Haute-Savoie, Ardèche, Drôme, Hautes-Alpes, Isère bien sûr. Dans un premier temps, ces patrons catholiques préfèrent des étrangères, quoi, étrangères à la localité, à la région. Et elles sont recrutées par des curés. Des curés qui les connaissent bien, qui connaissent ces familles qui sont souvent des familles très nombreuses, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enfants, très pauvres, et qui en connaissent la moralité, car ils établissent des certificats de moralité et demandent également un certificat médical. Donc, il s'agit d'en faire des bonnes chrétiennes. Certaines, d'ailleurs, venaient d'Italie aussi. Et il y avait également des sourdes et muettes. Des sourdes et muettes, alors là, qui venaient de toute la France. C'est pas particulier à Bourgoin. Si, les sourdes et muettes, oui. Il y avait des orphelines, par exemple, à l'usine Bonnet de Jujurieux, dans l'Ain. Mais ici, c'était des sourdes et muettes. Au départ, une vingtaine, et, c'est-à-dire dans les années 1860, une vingtaine, et une centaine dans les années 1900.
Et pourquoi voulaient-ils avoir des étrangères, justement?
Eh bien, au départ, parce que l'étrangère était considérée comme encore plus docile. Mais ensuite, ils se sont vite aperçus que la population locale était d'abord très nombreuses et très fortement christianisées. Et les sœurs rassuraient les parents. Vous savez, pour les parents, d'ailleurs, il faut le dire, mais avoir deux ou trois filles qui allaient dans une usine pensionnat, ça voulait dire qu'on avait une vie plus confortable. On n'avait pas à les nourrir. Et puis ensuite, les jeunes filles touchaient une dot et elles pouvaient se marier et trouver un bon mari.
Alors, pour bien qu'on comprenne l'importance pour Bourgoin-Jallieu et sa région de cette industrie florissante, j'aimerais que vous reveniez sur quelque chose que vous avez dit dans la première partie de l'entretien, sur ce double développement d'une industrie, à la fois l'industrie textile proprement dite, mais l'industrie des métiers, des engins qui l'ont permise.
Tout à fait. C'est l'industrie textile a emmené également, a conduit à la fabrication de métiers à tisser. Et ce sont souvent des Alsaciens qui sont venus par ici. Par exemple, comme les Diedrich. Théophile Diedrich, qui arrive ici, qui est un jeune Alsacien. Son père était artisan. Il est bricoleur. C'est un bricoleur de génie. Il aime bien bricoler. Il a de la chance parce qu'il épouse une fille Perregaux. Enfin, Perregaux, c'est l'industrie textile. Donc, bon mariage, il devient le directeur et ensuite s'établit à son compte. Mais là, dans deux domaines, à la fois le tissage et aussi la mécanique. D'autant que ces enfants, tous ces enfants vont faire des études à Lyon et vont devenir ingénieurs. Et ce sont eux aussi des bricoleurs de génie et qui inventent les métiers à tisser les plus rapides du monde.
Ce sont les mécanisés ?
Ce sont les métiers à tisser mécanisés qui étaient plus rapides que les métiers américains. Alors, ce qui était évidemment une découverte fantastique, mais ce qui pour les ouvrières était terrible, car le problème pour l'ouvrière, c'était de suivre. Vous savez, quand les fils de soie défilent à une grande vitesse, eh bien ça vous coupe les doigts. Alors si vous multipliez par 2 ou par 3 la vitesse du métier à tisser, bien sûr vous allez produire plus. Mais celle qui est là et qui doit surveiller et qui doit réparer, refaire un nœud lorsque le fil casse, eh bien son attention est décuplée. Donc les Diedrich, en particulier Charles, qui est un passionné de mécanique, est le premier à inventer une sorte de... Alors, on l'a appelé une locomotive à vapeur roulante qui servait de pompe à incendie. C'est-à-dire, c'était une énorme, un monstre à vapeur sur 4 roues et qui permettait d'atteindre les incendies dans Bourgoin-Jallieu. Et ensuite, il a inventé le moteur. Le moteur à explosion. C'est-à-dire, on parle souvent de Daimler-Benz. Eh bien, on oublie qu'ici, à Bourgoin, un moteur à explosion a été mis au point bien avant, 3 ans avant Daimler-Benz.
3 ans avant, c'est-à-dire quelle année ?
C'est-à-dire, c'était 1853. Et ensuite, ils ont, les Diedrich ont fabriqué des voitures. On peut... D'ailleurs, sur Internet, on peut en voir encore, et elles sont mises en vente à des prix exorbitants. Hein. Mais ce sont des véritables bijoux.
Pour continuer dans cet panorama concernant l'usine, le tissage de la soie, pardon, là encore, on peut trouver que Bourgoin a une spécificité. C'est pas n'importe quel tissage de n'importe quelle soie.
Alors, c'est vrai que c'est le tissage de soie de luxe. Vous avez encore aujourd'hui à Bourgoin une production dans une usine à Mérier, par exemple, qui fabrique les carrés de Christian Dior, d'Hermès. Ils sont fabriqués ici. C'est-à-dire qu'il y a un tel savoir-faire que tout ce qui est le plus luxueux dans le domaine de la soie, le plus délicat à faire, ne peut être fait que par des ouvrières qui ont ce savoir-faire qui a été transmis des unes aux autres. Et ça, on le trouve encore aujourd'hui ici. Les carrés Hermès sont fabriqués encore ici, à Bourgoin-Jallieu, ou dans les environs.
C'est magnifique de ne pas perdre le savoir-faire qui a été perdu dans tant d'autres domaines.
Tout à fait, parce que, vous savez, dans ces domaines-là, on perd vite ce savoir-faire. Par exemple, l'impression sur étoffe avec l'usine Brunet-Lecomte qui était juste à côté de Diedrich. Parce qu'il y a eu Diedrich, mais il y a eu Brunet-Lecomte. Là aussi, c'était de l'impression sur étoffe avec des grandes plaques de bois, exactement comme de l'imprimerie. On imprimait, donc, À la main. Et ben ce savoir-faire-là, il est encore détenu par certaines personnes. Et Hermès, qui s'est installé à la Tour du Pin, eh bien, l'utilise. Et ça, je trouve que transmettre ce savoir-faire, c'est quelque chose de très important pour l'avenir.
Alors du coup, on a un petit peu de mal à comprendre pourquoi une industrie de pointe, un tissage de haut niveau, pourquoi tout d'un coup, ça se met à... À péricliter.
Parce que le bas de gamme l'emporte.
Et est-ce que ce n'est pas justement parce qu'il n'y a plus, je reviens avec ma question, plus de soie, de fil à soie, parce qu'à un moment donné, on a même dû aller chercher la soie en Chine. Et alors, peut-être que c'est la cause.
C'est tout à fait exact. L'industrie de la soie, c'est une industrie qui est très sensible à la conjoncture et surtout au prix de la soie, qui fluctue. Il y a la guerre, il y a eu la guerre de sécession aux États-Unis. Il n'y avait plus de soie qui arrivait. Et les prix flambaient. Et ben, donc, évidemment, on réduisait la production. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les usines pensionnats, on ne renvoyait pas le personnel malgré tout. Donc, c'est une des raisons, effectivement. Je crois que l'autre raison, c'est le fait que bon, la production de masse, de moins bonne qualité, l'a emporté sur la production de luxe. Alors, il reste une partie de la production de luxe, le haut de gamme, mais ça, c'est une niche. C'est malheureusement une niche, mais c'est une niche qu'il convient d'entretenir quand même.
FM 97.1, avec notre invité Daniel Herrero, nous venons d'entendre pour finir Miles Davis. On se rappelle 1926 à 1991. Nous l'avons entendu dans The Gold Child de l'album Autumn Leaves Something Else Move. Gold Child, Vénus de Milo.
Alors, pour un historien, les archives ont une importance capitale. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire concernant les archives de Bourgoin-Jallieu ?
Alors, c'est vrai que les archives de Bourgoin-Jallieu ont quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'elles sont très importantes. Et elles sont très anciennes. Dans les archives, on raisonne en kilomètres, en kilomètres de rayon. On a 5 kilomètres de rayon de dossiers. Et elles sont très bien classées, parce qu'il y a les municipalités, les différentes municipalités ont toujours eu comme objectif d'organiser, de bien classer les archives. Et on a un archiviste remarquable qui travaille pas loin d'ici. C'est Thierry Giraud, que je tiens à remercier, car nous collaborons depuis déjà maintenant presque 30 ans, et qui est là, qui est très dévoué, et qui aide toutes les personnes qui souhaitent aller aux archives. Car c'est public, ce n'est pas réservé aux historiens.
Je crois qu'il y a une particularité, pardon d'insister, mais il me semble qu'une partie des archives devrait se trouver à Grenoble, normalement.
Voilà, c'est ça. C'est la plupart des communes, si vous voulez, ont envoyé leurs archives aux archives départementales, tandis qu'à Bourgoin, on les a gardées. Et c'est ce qui fait la richesse de ces archives. Et on continue. Les archives, on parle du textile. Il y a une très, très grande entreprise de textile qui s'appelle l'entreprise Mermoz. Eh bien, toutes les archives viennent d'être déposées. Et je compte, dans quelques années, m'y intéresser le plus tôt possible, parce qu'il y a un fonds, mais alors extraordinaire.
Alors Daniel, parlez-nous de vos projets, des archives ou peut-être à des projets d'écriture.
Oui, suite à une exposition que j'ai réalisée donc grâce à l'aide de la librairie Majolire, dirigée par Anne et Michel Villain, et au comité dirigé par Dominique Molin. Eh bien, nous avons pu organiser une journée sur l'histoire des usines pensionnats et une intervention de Michel Perrault, qui a écrit un remarquable livre sur Lucie Beau, une ouvrière du textile de l'Isère. Eh bien, à partir de cette exposition, qui rassemblait quand même à peu près 90 pages de documents, j'ai l'intention de faire deux choses. D'une part, une partie, disons, plus scientifique, destinée aux établissements scolaires, pour que les élèves aient des documents, justement, concernant les conditions de vie, les conditions de travail de ces ouvrières au 19e et début du 20e siècle. Cette publication, donc, aura un but essentiellement pédagogique, pour que les élèves puissent voir que, au niveau local, on peut très bien étudier la révolution industrielle en s'appuyant sur ce qui nous entoure, sur ce que les gens ont vécu ici. Et puis la deuxième chose, c'est justement, à partir de ces usines pensionnats, d'aborder l'histoire de ces pensionnats à partir de l'histoire d'une jeune fille, d'une jeune Savoyarde âgée de 14 ans, qui vient travailler à Boussieu et qui va y passer 8 années avant de se marier. Et c'est cette histoire que je voudrais raconter, l'histoire de sa vie. Et ça, c'est un travail plus romanesque, mais s'appuyant évidemment sur les archives qui me permettent de reconstituer, si je puis dire, la vie, le travail de cette ouvrière dans un milieu qui était l'usine pensionnat.
Et donc, ce sera un travail, une écriture tout public ou spécialement dirigée vers l'enseignement.
Pas vers l'enseignement, tout public. C'est pour que l'on garde la mémoire de ces personnes qui ont fait ce territoire, qui ont fait notre histoire. Souvent, pris par la vitesse, le zapping, hein, on passe très rapidement sur les choses et on oublie ce qu'il y avait derrière nous. Et derrière nous, il y a ces jeunes filles qui ont fait la France. Souvent, il y a eu des livres sur les rois qui ont fait la France. Mais il y a les jeunes filles, il y a les jeunes hommes, il y a les hommes et les femmes. Il y a ce sont toutes ces personnes qui ont fait la France. Pas seulement les rois, les princes, ou les généraux, ou les maréchaux. Et donc, c'est aussi un hommage à la population. Car l'histoire, c'est pas simplement l'histoire de quelques politiques, mais c'est l'histoire des êtres humains. Et cette histoire, c'est ça qui fait de nous des humains.
Et vous avez donc aussi enseigné l'histoire dans un lycée. Je pense que vous avez dû parler de tout ça. Comment c'est perçu par les jeunes de maintenant ?
Eh bien, moi, les élèves que je rencontre encore aujourd'hui, mais bon, maintenant qui ont 45, 50 ans, se souviennent toujours de la maquette de Bourgoin-Jallieu pendant la Révolution française que je leur ai fait réaliser, à partir des archives. Nous sommes allés aux archives, nous avons étudié les plans de l'époque, nous avons étudié maison par maison, savoir qui habitait, et nous avons fait, ils ont fait une maquette. C'est une manière d'aborder l'histoire de la Révolution, qui est un peu différente, mais qui permet de toucher à ce qu'il y a d'humain. Et de reconnaître aussi la ville dans laquelle ils vivent. Donc, je crois que ça, l'histoire locale est un moyen très très important pour faire en sorte que les élèves voient qu'il ne s'agit pas simplement justement de personnages très éloignés, mais qu'il s'agit que l'histoire, c'est de la chair, des sentiments, des humains qui ont des idées, des passions, des colères, mais qui vivent l'histoire des hommes.
Et de cette façon, effectivement, vous avez ouvert les yeux à apprendre à regarder, parce que c'était dans votre domaine, mais après, on prend l'habitude de regarder tout autrement. Et c'est ça qui est fabuleux, ce travail que vous avez fait. Ça, c'est super.
Je vous remercie.
Alors, Daniel, je pense qu'on peut vous retrouver sur un site. Et que trouve-t-on sur ce site ?
Alors, sur le site de la mairie de Nivola-Vermel, on peut trouver trois choses. On peut trouver tout d'abord la conférence, le texte de la conférence que j'ai faite sur, justement, l'usine Schwarzenbach de Boussieu, où je détaille les conditions de vie, la naissance de cette usine et les conditions de vie et des ouvrières. On peut trouver également un autre texte sur ce qu'on appelle la grande peur en Dauphiné, la grande peur à Bourgoin, dont j'ai parlé, j'ai évoqué quelques éléments au cours de cette émission. Et on peut enfin trouver une troisième chose, c'est-à-dire l'histoire de l'église de Vermel. Non pas la chapelle, comme on dit, j'allais commettre l'erreur. C'est l'église de Vermel, car je fais partie de l'association pour la protection de l'église de Vermel, et je m'intéresse beaucoup à l'histoire de cette église.
Alors, comment s'appelle ce site ?
Alors, le site, c'est le site de la mairie de Nivola-Vermel. Vous tapez « mairie de Nivola-Vermel ».
Ok. Merci beaucoup, Daniel Herrero. Et merci, Daniel. Merci. Merci, Laurent. Et merci, Dominique, pour
merci,
tout ce travail.
Merci.
Et je voulais vous dire que, Daniel Herrero, la prochaine émission, on continuera sur ce même sujet, car nous recevrons Michel Perrault.
Merci, voilà. À vous.
Merci beaucoup.